Vous écoutez Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire. Bonjour, vous êtes bien avec Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, sur Radio B 90 FM, la radio des bonnes ondes, pour son émission au Café littéraire. Et je vous propose de commencer cette nouvelle année 2023 en musique, car j'étais très impressionné par le témoignage et la compétence de Jean-Yves Larouturou et son récit « Ma vie avec Stravinsky » aux éditions Gallimard. J'en ai déjà parlé la dernière fois, mais je dois y revenir afin d'approfondir avec vous ce grand compositeur, Igor Stravinsky, mort au printemps 1971, un univers musical en perpétuelle révolution, compositeur de création inouïe et d'archétypes intemporels. Formation à Saint-Pétersbourg, en Russie, puis en France, et au bord du lac Léman pendant la Grande Guerre de 1914, où il rencontra Ramuz, puis en 1940, aux États-Unis, où il participa à de grands événements musicaux avant d'y mourir. Vivre avec sa musique est une source inépuisable de bonheur, de trouble, de plaisir. Une joie furibonde et inextinguible, comme l'exprime si bien Jean-Yves Larouturou dans son ouvrage merveilleux avec l'oiseau de feu que j'ai enfin déniché, une première œuvre qui fait une éruption dans une vie, la nôtre, mais aussi sans doute dans la vie de Stravinsky lui-même. Cette musique a été une révélation. Une vie qui s'est achevée le 13 août 1966 à son domicile 1260 North Waterly Drive à Hollywood, avec le Requiem Canticle ou Symphonie des Psaumes, que j'aime et que je ne vous ferai pas entendre cette fois-ci, ultime chef-d'œuvre à 87 ans. Au départ à Saint-Pétersbourg, 6 années de compagnonnage d'élection avec le grand Rimsky-Korsakov et peut-être un peu avec Moussorgski, qui était présent là aussi. De là date chant funèbre qui est son chant funèbre. Influence française également avec Claude Debussy, Ducas, Chabrier, Magnard, et allemande et même wagnérienne avec Parsifal. Première empreinte de la mort que ce chant funèbre, créé en 1936, suivi de nombreuses élégies pour des grands hommes qu'il appréciait beaucoup, ou dans laquelle, dans cette œuvre, les sonorités de cloches du post-lude retentiront bientôt, mais quelques années après, pour Stravinsky lui-même, au jour de l'adieu sur la lagune vénitienne. « Je ne suis pas vieux, dit-il, je suis malade. » Au moindre répit, l'inextinguible vitalité reprend le dessus. Et dès que possible, il retourne à son atelier pour inventer la musique. Toujours le matin, il s'enferme dans son studio, autour duquel doit régner le silence. Devant le piano droit et le pupitre, depuis plus de 60 ans, cet ordonnancement liturgique et le rituel de la composition sont immuables. Fin 1969, la vie quotidienne du grand malade, puisqu'il est malade, mais voilà, il vit encore, devient trop compliquée à Hollywood. Si bien que 20 ans avant David Bowie, il s'installe à Essex House, au sud de Central Park, à New York. Un changement d'air indispensable lui permet de retourner pour un ultime séjour au bord du lac Léman, repos à l'hôtel Royal d'Évian, un dernier pèlerinage au pays de Vaud, où avait débarqué toute la tribu Stravinsky de 1911 à 1920. Une période heureuse. Retour à New York, là il est hospitalisé au Lenox Hill en mars 1971. Et après un infarctus, il prend congé de Vera, sa deuxième épouse, la première étant morte. Il s'était remarié avec Vera, plus jeune, mais bien présente, et de Robert Kraft, son collaborateur quotidien, depuis plus de 20 ans, devenu son fils spirituel. Il s'éteint le 6 avril 1971 à 5h20 dans le gris de l'aube. Les cérémonies mortuaires ont lieu à la chapelle Campbell, un haut lieu sur Madison Avenue, où beaucoup de grands hommes ont été enterrés, si on peut dire. Réunissant donc une cérémonie mortuaire, réunissant beaucoup de monde, dont les intimes, tels Georges Balanchine, avec qui il avait fait des œuvres magnifiques. Vera Stravinsky fera en sorte de choisir Venise, parce que on se disait, est-ce que ce sera les Américains qui vont le conserver, ou bien la France, mais la France ne s'en occupait plus de ce Stravinsky, et puis la Russie, oui, l'URSS aurait bien voulu avoir son corps, mais pour finir, c'est Venise qui sera choisie par Vera Stravinsky. Le 15 avril, avec une cérémonie fastueuse qui surpassa tout ce que l'on avait vu récemment en Italie, sur le Campo San Zanipolo, où la foule se pressait, conduite par l'archimandrite de San Giorgio dei Greci, liturgie grecque et latine, et aussi l'exécution des Requiem Canticles. Le paradoxe, c'est que cette œuvre, cette dernière œuvre magnifique, c'est que cette œuvre qui à la première écoute, comme à la 20e, sonne si nouvelle, si juvénile et libre, et pourtant c'est une réminiscence de toutes ses œuvres antérieures. Voilà pourquoi c'est un grand musicien qui s'est éteint. La dépouille mortelle d'Igor Stravinsky entreprit l'ultime voyage, suivi d'une flottille de gondoles couvertes de fleurs, s'avançant sur la lagune jusque sur le Campo Santo de San Michel, où il dort pour l'éternité. Ainsi, tout est accompli pour ce grand compositeur du XXe siècle, qui connut à Venise justement une période heureuse aussi. Écoutons un extrait de L'Oiseau de Feu. Cette première musique est un opéra dû à la rencontre de Stravinsky avec Serge de Diaghilev, le génial inventeur et promoteur des ballets russes. Une rencontre déterminante pour sa carrière, puisque il va tisser avec la danse, depuis cette époque, une relation étroite, libératrice et stimulante, comme on le verra en France avec le Sacre du Printemps et Maurice Béjart, un grand ballet. C'était en 1955. En intrigue de l'oiseau de feu, un personnage, Ivan Tsarevitch, poursuit un bel oiseau d'or et de feu en s'aventurant dans le domaine de Kashtchei, l'immortel et redoutable demi-dieu. Il l'attrape, puis le relâche contre une de ses plumes. Mais au moment de sortir du lieu, il est rejoint dans le jardin par 13 princesses, et il s'éprend de l'une d'entre elles. Capturé par les affreux gardiens de Kashtchei, qui veut le changer en pierre, Ivan est sauvé par l'oiseau de feu qui entraîne les suppôts du despote dans une danse infernale. Épuisé, il s'endorme au son d'une berceuse magique. Tandis que Kashtchei, à la fin, meurt, Ivan épouse sa bien-aimée. C'est une œuvre tirée d'un conte très célèbre en Russie. Écoutons donc cette danse infernale. Merci à Jimmy. Le deuxième livre est un roman, un monument historique intitulé « Léon Battista Alberti, le magicien de la Renaissance » par un auteur érudit et passionnant, Yann Kerlo, aux éditions Albin Michel. Diffusion Gilles Paris. Une nouveauté qui nous fait pénétrer au cœur de la Renaissance italienne, qui est aussi un humanisme avec les révolutions artistiques du Quattrocento et ses splendeurs, sans aussitôt penser à Pétrarque, Dante et Boccace. Il est un autre nom moins souvent évoqué qui mérite pourtant lui aussi de figurer parmi ces illustres acteurs de cette Renaissance. Cet homme, c'est Léon Battista Alberti. Qui était-il ? Un architecte ? Un homme de lettres ? Un philosophe ? Un mathématicien ? Un artiste ? Un véritable magicien ? C'est ce qu'il était, capable d'exercer tous les métiers et de montrer tous les visages. Grâce à cet ouvrage de Yann Kerlo, on découvre toute la richesse de cette époque éclatante. Ainsi, en parlant des trois mousquetaires, trois géants littéraires, on chemine avec Alighieri, Dante, Pétrarque et Boccace, qui seront, avec un siècle d'avance, les pères de l'humanisme. Ils aiment leur langue toscane, au point de se battre pour élever son vocabulaire, ses narrations, ses poèmes. Ils y parviendront sans avoir à renier la langue latine et son somptueux passé. Ces trois hommes auront un destin qui en lui-même ressemble à une épopée. Une épopée commencée sous l'Antiquité gréco-latine et poursuivant sa course jusqu'à nous. Un voyage qui frappera d'autant l'ambition et l'intelligence de Léon Battista Alberti que Dante, Pétrarque et Boccace lui apprennent comment vivre jusqu'à la fin des temps en se surpassant. Si les dents du temps dévorent l'homme, il doit avant tout créer et transmettre. Et c'est ce que Léon Battista accomplira durant toute sa vie. Dante, Alighieri, date de 1265 à 1321, conçu sous la féodalité, s'en échappera par l'écriture et sa volonté de rendre à l'homme sa dignité et sa liberté de conscience. Voilà, les mots sont dits, liberté de conscience. L'auteur de la Divine Comédie sera connu non seulement par ses contemporains, mais durant les 7 siècles qui suivront. Voilà, 7 siècles qui suivront. Dans cette œuvre unique, Virgile, le grand Virgile, l'accompagne, lui faisant traverser l'enfer, le purgatoire et enfin le paradis. 3 étapes dont l'ultime s'achève pour Dante lorsqu'il rencontre la femme qu'il aimera toute sa vie, Béatrice Portinari. Elle sera sa muse et fera naître l'un des livres les plus puissants en toscan. Paru en 1472, repris en 1555 et en 1596 en France, traduit en français. Dante était un guerrier apprécié de tous. Mais lorsqu'il y aura la guerre entre Guelfes florentins, se divisant en 2 camps, d'un côté les Noirs, les Guelfes noirs, favorables à l'emprise totale du Saint-Siège sur toute forme de gouvernement, et de l'autre les Guelfes blancs, qui entendent cantonner le pape dans le monde spirituel qui est le sien. Dante, en choisissant d'être libre de ses opinions, il se condamne à l'exil, au bannissement et à une vie où l'écriture le sauvera du désespoir et de la misère. Le pape Boniface VIII l'a condamné à être brûlé vif. Il quitte donc Florence pour ne jamais y revenir. Et écoutez bien, son bannissement ne sera révoqué que 6 siècles plus tard, en 2008. Vous comprenez pourquoi cette œuvre nous touche encore aujourd'hui, puisqu'il faut attendre 2008 pour que son bannissement soit officiellement révoqué. Entre 1302 et 1321, 19 années qu'il consacrera à l'écriture. Un parcours du combattant où Dante, par sa foi en lui-même, fera de lui un dieu vivant et le premier humaniste de son temps. Après Dante vient son fils spirituel qui est Pétrarque. Né en 1304, mort en 1374. C'est un Florentin qui, comme Dante, sera banni de Florence et exilé, ça nous le savions, en Avignon. Malgré leurs 39 ans d'écart, ils auront autant d'amitié que d'estime l'un pour l'autre. C'est un poète, Pétrarque est un poète et un philosophe, dans la mouvance de Platon. Pour lui, rien de grand ne peut être atteint par l'homme s'il ne s'est pas suffisamment penché sur ce qu'il nomme la pure splendeur du passé. Plus les racines de l'homme remontent loin, plus elles l'étoffent et font de lui un vainqueur. Voilà la pure splendeur du passé, se tenir au passé. La jeunesse de Pétrarque et celle de Léon Battista Alberti se ressemblent sur bien des points. Ils seront des enfants de l'exil, puis des jeunes gens d'une taille exceptionnelle pour leur époque, plus d'1,80 m, et passionnés par leurs études de droit. La route de Pétrarque croise celle de Giacomo Colonna, une grande famille, les Colonna, né en 1301 et mort malheureusement en 1341. Même âge, mêmes études et amitié véritable. On ne rencontre pas beaucoup des amitiés si fortes. Alors que Pétrarque ira en France, d'abord donc en Avignon, puis à Carpentras et enfin à Montpellier, Giacomo Colonna sera l'évêque de Lombèse déjà en 1328. Sera l'évêque de Lombèse. Il appartient à une grande famille prestigieuse avec des cardinaux, des châteaux et de nombreux serviteurs. La passion de Pétrarque pour l'écriture commence avec un texte qui s'appelle un poème épique de 9 livres qui s'appelle « Africa », écrit en latin et dédié au roi Robert Ier de Naples. Ce poème retrace la Seconde Guerre punique entre Carthage et Rome, entre 218 et 201 avant Jésus-Christ, opposant le Carthaginois Hannibal au Romain Scipion l'Africain, qui l'emporta. Premier succès littéraire à 39 ans en 1343. Il a la chance, un an plus tard, de pouvoir acheter dans leur version originale des lettres de Cicéron. Mais c'est le cantionnaire, le chansonnier, traduit en français, le chansonnier, écrit en 1355, dont les 366 poèmes seront considérés comme l'œuvre la plus accomplie qu'il ait jamais écrite et qui fera sa réputation. Il y évoque le souvenir que lui a laissé son ami Giacomo Colonna, disparu en 1341, mais c'est sa rencontre d'une femme splendide, Laure de Noves, dans l'église Sainte-Claire d'Avignon. Hélas pour lui, elle est mariée avec le marquis Hugues II de Sade, auquel elle donnera 11 enfants. Elle occupera non seulement la vie de Pétrarque, mais aussi ses écrits, et plus particulièrement les 366 poèmes que compose le cantionnaire, morte à 36 ans le 6 avril 1348. Un humanisme amoureux et philosophe, confronté à l'épreuve qu'est l'amour non partagé, une impasse ou l'issue d'un pari avec le destin. C'est la question qu'on peut se poser. Il choisira de l'aimer, bien sûr, sans l'ombre d'un doute. Pétrarque le sut d'instinct. Voilà, grande histoire. Le troisième larron déguisé en mousquetaire, c'est Boccace. Né en 1313, mort en 1375. Ami de Pétrarque qui, comme lui et comme Léon Battista Alberti, écrira aussi bien en toscan qu'en latin, Boccace sera le premier à oser avoir changé le titre de l'œuvre majeure de Dante, qui est devenue, grâce à lui, la Divine Comédie, et non seulement Commedia, comme l'avait baptisé Dante. Un titre des plus singuliers pour ce rocher de Sisyphe, un titre qui traversera les siècles avec le doux parfum d'immortalité. L'œuvre la plus importante de Boccace, c'est le Décaméron. Le Décaméron, dont s'empareront les quatre cinéastes les plus célèbres d'Italie au XXe siècle. Une œuvre érotique, à souhait, qui durant 10 jours met en concours 7 femmes et 3 hommes. D'un sexe à l'autre, tous sont décidés à tout connaître, à tout vivre du désir, dans une propriété où ils se sont volontairement enfermés. Ça vous rappelle sans doute quelque chose. Boccace mettra 4 ans à l'écrire, dans une langue qui se veut plus parlée qu'écrite, comme si son texte était un des contes populaires transmis dans l'intimité d'échanges familiers. Léon Battista vécut son 15e siècle en 2 temps majeurs. Léon Battista, le personnage de ce grand roman. Tout d'abord, son adolescence, traversée sous un vent de menaces, de morts innombrables, il a effectivement vu disparaître sa mère. Son père s'est remarié. Et puis les demi-frères et sœurs les ont traités de bâtards, lui et son frère, Carlos. Il y a eu aussi des règlements de comptes, des fortunes qui ont été dispersées, qui sont passées à d'autres. Et puis la deuxième partie, c'est au décès de son père, s'ouvre la seconde page de sa vie. Heureusement, le frère de sa mère le prendra en tutelle et lui fera faire des études. C'est cette période de sa vie et celle de la raison et des constats. Il est sans fortune et il n'aura d'autre but que de réussir. Écrire s'est imposé sitôt chez lui et avec une telle nécessité psychique qu'il a vécu la solitude comme l'état le plus naturel du monde. Chiens et chevaux, équitation, c'était vraiment un grand cavalier, font partie de sa vie quotidienne. Au fil du temps, les horizons se sont magnifiquement agrandis pour lui. Outre les maîtres de l'Antiquité, qui lui ont tout appris, ses pas ont croisé ce Brunelleschi et Donatello, 2 rencontres déterminantes. Viendra après celle de l'un de ses aînés, Poggio Bracciolini, né en 1380, mort en 1459, dit le Pogge, qui mènera bien avant lui une carrière semblable à la sienne à la curie romaine. Parce que pour gagner de l'argent, de quoi vivre, il a dû aller à la curie romaine où on nous proposera un travail. Entrer au service de l'antipape, c'est l'époque, vous savez, où il y avait plusieurs papes, dont en France, à Avignon, l'antipape Jean XXIII, le Pogge ne se contenta pas du poste qui lui était alloué. Il partit à la recherche de textes anciens. Il découvrira Cicéron, Quintilien, le Satyricon de Pétrone, Plaute et surtout de la nature de Lucrèce. Un texte majeur pour Léon Battista Alberti, qui s'appuiera là-dessus pour construire son œuvre. des textes habilement considérés comme fables pour déjouer la censure du Saint-Siège. Une tolérance que Thomas More, vous savez, Thomas More, je vous en ai parlé dans une biographie récemment, né en 1478, mort en 1535, Thomas More utilisera dans son Utopie, 1516, sans renier pour autant sa propre foi en Dieu. Voilà pourquoi il y a eu des fables. C'était une façon de déjouer la censure. Les vues multiples de Léon Battista, qu'il s'agisse de sa carrière à la curie romaine ou de ses œuvres, font de la prudence, car il faut se méfier des uns et des autres, font de la prudence, c'est une période très troublée, font de la prudence sa perpétuelle alliée. Qu'il cherche à gagner la confiance des familles les plus fortunées ou à aborder un sujet politique, il voit sa sagesse et sa mesure gagner les objectifs qu'il vise. En cette période troublée, l'ennemi, c'est lui-même. Cela, il a bien compris. Évite dans tous les raisonnements que tu tiens avec toi-même, comme les plaintes ou tout geste de pitié. Comme en mer, on s'attache à l'ancre, de même dans chaque tempête de ton âme et de ton esprit, fonde ta stabilité sur un attachement à la saine raison et à un comportement viril. Mets-toi en position de vaincre et tu vaincras grâce à ta vertu. Sa confiance en lui-même, c'est au philosophe de l'Antiquité grecque qu'il la doit. Leur sagesse, leur raison, leurs écrits ne visaient pas la gloire. L'humanisme est par nature itinérant. Et Erasme sera l'un des premiers à en goûter les plaisirs. Tout d'abord, il vivra en Angleterre, puis en Suisse, il ira en Italie, en France, et pour finir en Espagne, où il sera un grand personnage de l'empereur d'Espagne. Toute existence devait avoir un port d'attache. Celui de Léon Battista est le livre par excellence. Dans l'ensemble de ses 45 ouvrages, le plus attractif pour les 7 siècles qui nous séparent de lui reste l'art d'édifier. L'art d'édifier, c'est le texte. Élu d'évidence, où le chantier y est selon lui, le cours de la vie humaine. Que ce soit en Italie ou ailleurs, en Europe, ses travaux, lui qui a alors 68 ans, et qui n'ira pas plus loin que la construction de la basilique Saint-André de Mantoue, en 1472, grâce au choix du marquis Louis Gonzague, qu'il a choisi pour construire cette basilique, qui est superbe, Saint-André de Mantoue. Ses travaux le poursuivront avec ses successeurs, assurant sa continuité comme une seconde naissance. L'héritage renaissant ne s'arrête pas à l'Italie. Et en Flandre, nous voyons deux peintres en Versoix devenir célèbres, le grand Rubens, qui va faire des tableaux magnifiques avec plusieurs personnages dans différents. Il y a la reine, et puis des magistrats, et puis d'autres personnages, et puis l'environnement. Tout ça est restitué dans les fameux tableaux de Rubens, et puis son disciple Van Dyck. Cette Renaissance a fait en 2 siècles un parcours si éclatant dans sa diversité que ses créateurs ont eu le renom que donne une immortelle présence. Ce sera le cas de Dürer, de Giotto, Léonard de Vinci, Le Caravage, Frangelico, Michel-Ange, Botticelli, Copernic, Le Titien, Jérôme Bosch, Erasme, Thomas More, Paracelse, Galilée, Poscanelli, une liste que les Médicis, les Gonzague et les Russellais ont enrichi tant par leur goût que par leur mécénat, voilà, permettant à ces grands artistes de vivre de leur art. Le visage et la stature qui ont bien servi de modèle pour Léonard de Vinci au tableau qui représente l'homme de Vitruve, avec les proportions, le visage, le corps, sont bien ceux de Léon Battista Alberti. Une façon, un très bel hommage qui lui est ainsi rendu par Léonard de Vinci, qu'il appréciait beaucoup. Je voulais revenir sur Michel-Ange, ainsi que le fait Yann Kerlo dans cet ouvrage exceptionnel. Pour lui, Michel-Ange n'est pas seulement un géant artistique de ce unique et incontournable, de ce Quattrocento, mais aussi un humaniste. Michelangelo, dit Lodovico Buonarroti, Michel-Ange, dû au hasard de naître en 1475. 3 ans après la disparition de Léon Battista Alberti, le héros de ce roman. Si l'un a été très prudent et discret, l'autre aura eu la chance d'avoir été célèbre très tôt. Il a eu une audace picturale que rien n'arrête en des temps où la foi régnait souverainement. Fils d'un avocat et d'une mère qui mourut quand il n'avait que 6 ans, Michel-Ange aura eu la chance de devenir l'apprenti peintre de Domenico Ghirlandaio en cette fin du XVe siècle. Ce grand peintre porte une grande admiration à Masaccio et Giotto, qui incarne la grande tradition picturale. Michel-Ange sera sensible aux fresques de Masaccio, mais leur préférera les statues antiques appartenant aux Médicis. Les humanistes des XVe et XVIe siècles en seront les défenseurs incontestés de ces statues antiques. L'antiquité grecque et romaine retrouvant soudain toute sa place grâce à eux, à ces humanistes des XVe et XVIe siècles. Voilà pourquoi nous aussi, on profite de ces statues grecques et romaines qu'on peut voir ici ou là. Et ça date de cette époque. Dès l'âge de 17 ans, Michel-Ange est enthousiasmé par la puissance des œuvres du sculpteur Donatello. Donatello est né en 1386, mort en 1466, qui dès 1434 sera choisi par Côme de Médicis et ne travaillera que pour lui et sa descendance. On peut remercier vraiment ces mécènes, ce Côme de Médicis, comme plus tard son fils, Michel Laurent le Magnifique, parce que grâce à leur fortune, mais aussi leur goût, eh bien, ils vont soutenir vraiment de très très grands sculpteurs ou artistes. Le marbre blanc de Carrare, le fameux marbre blanc de Carrare, sera pour Michel-Ange, durant les 88 ans de sa vie, le matériau dont le toucher et la couleur l'émerveillent. Une fois sortis de leur excavation, les blocs le dirigent vers les formes que sont ses mains, que ses mains vers les formes que ses mains vont lui donner. C'est avec les Médicis en 1490 qu'il commence sa carrière avec Laurent de Médicis, né en 1449, mort en 1492, qui devient Laurent le Magnifique. Passionné par le corps humain et désireux d'en donner la plus troublante représentation, Michel-Ange va sélectionner des modèles de tous les âges. Mais arrive le fameux moine de Savonarole et ses discours enflammés contre toutes ces exagérations ou cet humanisme. Tous les artistes et les mécènes quittent la ville de Florence parce que Savonarole dit qu'il faut brûler toutes ses œuvres. Michel-Ange va à Bologne où il réalisa deux sculptures. Deux ans plus tard, en 1496, à la demande du cardinal Riario, il quitte Bologne pour Rome, où il fera deux statues, où il commencera aussi une belle carrière. Il fera deux statues, en premier lieu un Bacchus et une Pietà, la fameuse Pietà. Ce chef-d'œuvre traduit pour cet auteur, traduit l'irrémédiable désespoir de la Vierge face à la mort de son fils. Moi, j'y vois plutôt une très très grande douleur face à la méchanceté des hommes qui ont torturé et tué son fils sur la croix. Le David de Michel-Ange, voilà, j'en arrive au David de Michel-Ange, car c'est un grand moment. À partir d'un marbre de Carrare, d'une exceptionnelle qualité, plus deux artistes avaient essayé d'en tirer quelque chose, mais n'étaient pas parvenus. Seul, Michel-Ange va arriver avec ce marbre de Carrare, 5,17 mètres de haut, et il va stupéfier ses commanditaires de l'opéra Del Duomo, qui avait prévu de l'installer au sommet du dôme. Donc ça devenait une chose impossible. Ce David terrassant Goliath n'est pas ce qu'ils attendaient, même s'il a l'air d'avoir une arme pour terrasser Goliath, une fronde. Sans adversaire, dans la statue, il n'y a pas d'adversaire, il y a juste David. Pourquoi ce léger déhanchement qui n'a rien de menaçant, mais qui surprend par sensualité? Que vont en penser les mécènes et le Vatican? Alors, on va demander l'avis à quatre grands artistes, dont Léonard de Vinci, et ils vont donner leur avis. Tous jugent que sa place n'est pas dans l'église Santa Maria del Fiore, mais sur le Palazzo Vecchio, qui accueille les 5 tonnes de la statue de Michel-Ange, ce David de Michel-Ange, où on peut l'admirer en tournant autour. Voilà. Inauguré le 8 septembre 1504. Autre grande œuvre de Michel-Ange, c'est le Jugement dernier, une fresque splendide, dans laquelle Giorgio Vasari donne un couronnement qui exalte Michel-Ange. qui a su créer le vrai style de l'art qui consiste à savoir peindre le corps humain dans toute sa beauté. Il y avait un texte plus long, mais je l'ai écourté un petit peu, de Georges Vasari. Il donne toute une définition à partir du dessin, de ce que l'on peut faire pour créer un art, un vrai style de l'art, qui consiste à savoir peindre le corps humain dans toute sa beauté. C'est ce qu'a fait Michel-Ange. Voilà pourquoi il devient aussi un humaniste. Et c'est en tant qu'architecte que Michel-Ange est choisi par le pape Jules II afin que Saint-Pierre de Rome devienne l'étendard le plus fastueux que la terre ait connu. Un joyau incomparable couronnant le premier millénaire du Christ roi. Et c'est lui aussi qui assurera la rénovation de la chapelle Sixtine. Un pape avait proposé à Léon Baptiste Alberti, qui était architecte, vous savez, de s'occuper de Saint-Pierre, mais il avait renoncé parce qu'il voyait qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Et c'est Michel-Ange qui va assurer l'étendard le plus fastueux que la terre ait connu, de ce joyau incomparable. Mais c'est lui aussi qui assurera la rénovation de la chapelle Sixtine en 5 ans, de 1507 à 1512, pour peindre l'éblouissante fresque du plafond, avec 350 personnages. Une œuvre considérable, et avec la difficulté que c'est de peindre comme ça sur des étagères pour faire le plafond, avec 350 personnages. Comme le disait souvent Alberti en souriant, « Mourir n'empêche pas les autres de se souvenir de nous. » Eh bien, soyons en sont convaincus par ce maître livre de Yann Kerlo, Léon Battista Alberti, qui vient de paraître aux éditions Albin Michel, que l'auteur remercie chaleureusement de l'avoir édité. Et nous aussi, nous le remercions chaleureusement de l'avoir édité. Une petite pause, parce que j'ai un scoop avant de vous parler aussi d'un autre merveilleux livre, plus court, intitulé « Plein été, recueil de poésie » qui vient de paraître, prix qui est le prix de la poésie Histoire et mémoire 2022. « Plein été », c'est le titre de ce recueil de poésie par Cécile Rulon aux éditions des Deux Rues, qui est un éditeur local. Et je le remercie parce que c'est vraiment quelque chose de splendide. Plein été, Cécile Rulon, édition des Deux Rues. Prix de la poésie Histoire et mémoire 2022. Je vous lis en premier, il y a un dialogue entre ici et là-bas, entre l'Algérie, que des gens ont dû quitter, et la France. Ils avaient quitté la France pour venir en Algérie, mais certains ont dû retourner en France. Ici, ma fille, tu t'en vas et je suis sans péché. Parfois même, nos hurlements intérieurs ne peuvent ébranler ce que la vie fait et défait. Il nous faut accepter l'attente, l'éloignement, la peur, et continuer à vivre chacun de son côté. Ma fille, je reste ici, je ne peux pas la quitter. Ce qui fut mon pays n'a plus besoin de moi, mais ce qui fait ma vie n'est pas non plus là-bas. Et les larmes que tu caches n'ont qu'une finalité. Elles t'expriment l'attente, l'éloignement, la peur. Et ton refus de vivre chacun de son côté. Ma fille, tu ne peux pas toujours tout contrôler. Le temps qui passe aussi commence à marquer ton visage. J'ai bien vécu, crois-moi, et comme l'automne approche, je n'ai pas de regrets. J'attends sereinement, loin de toi et sans peur, l'hiver de mon côté. Profite de ton plein été, d'où le titre de ce recueil de poésie, Plein été de Cécile Rulon. Et là-bas, je lis, et là-bas, un autre poème, mais il y en a beaucoup plus. Peur de te lire, angoisse de ne pas t'entendre, là-bas, les nouvelles sonnent comme une radio de bois. Le théâtre prend feu, les marionnettes aussi. Personne ne semble savoir ce qu'est la rue d'Isly. À force de coups reçus, j'ai le cœur engourdi. Je ne sais plus si ma terre a un nom proche du mien. Ma maison, où est-elle et où sont mes amis? J'ai perdu mon décor et je suis comme un chien. Errant sur le chemin sinueux, ai-je fait le bon choix? Angoisse de ne pas comprendre, peur de tout te dire. Voilà, je m'arrête là-dessus. C'est un très beau recueil de poésie qui vient d'avoir un prix, un grand prix de poésie Histoire et Mémoire 2022. Il y avait au dernier instant 5 concurrents et c'est elle qui l'a emporté avec... C'est vrai, beaucoup, beaucoup d'exigences. Pour l'avoir coûte 10 euros, il faut, vous, sur Internet, demander à l'éditeur, aux éditions des deux rues, https://édition en minuscule, des deux rues, le 2 est un chiffre, deux rues.com. Voilà, édition des deux rues.com. Et vous pourrez l'avoir pour 10 euros. Alors j'ai encore un autre livre merveilleux, une histoire restée secrète, Au long des jours de Nathalie Reims aux éditions Léo Cher, c'est aussi une diffusion Gilles Paris. Un roman merveilleux qui mêle le théâtre et la chanson française à Paris. Dans les années 1950, 1960, 1970, Nathalie Reims revient aujourd'hui, ayant retrouvé une photo de sa sœur Bettina, qui date de cette époque, qui bouleversa sa vie. En 1977, la narratrice, qui vient d'avoir 18 ans, 3 ans plus tôt, elle avait fait ses débuts de comédienne, ayant réussi le concours d'entrée au conservatoire de la rue Blanche, elle avait arrêté le lycée selon la volonté de son père, qui lui avait dit « Écoute, passe un concours, si tu réussis, eh bien d'accord, tu peux arrêter le lycée. » Elle jouait dans une pièce de théâtre, le théâtre de la ville, consacré à la grande Catherine de Russie, une pièce de théâtre intitulée « La Mante polaire » avec la grande Maria Cazares, dans le titre, dans la Mante populaire, dans le titre principal. Elle y incarne Catherine jeune. Ce fut vraiment quelque chose de formidable. Un enseignement pour elle aussi. Et un chanteur au sourire éblouissant vint la voir et l'entendre. Et il l'invita à la Villa d'Est, un cabaret en vogue, où il se produisait. Ils se rencontrèrent là, et ce fut le début d'une passion amoureuse entre elle, 18 ans, et lui, un homme hors du commun, acteur, chanteur, célèbre et peintre, de 37 ans son aîné. Ce fut comme une évidence. Elle aima toutes ses chansons qu'elle fredonnait. Elle apprit qu'il était marié à une femme, Liliane, terriblement jalouse et père de deux enfants. Et malgré cette différence d'âge et les circonstances, ils se sont aimés clandestinement. Il y avait chez cet homme quelque chose de si mystérieux, tellement différent de tout ce que j'avais rencontré, dit-elle. En l'écoutant chanter, je me disais que ma place était là, et en même temps que j'avais l'impression de commettre un vol. J'aurais voulu le cambrioler, entrer par effraction dans sa vie, depuis sa naissance jusqu'à ce jour d'hiver 1978, où il disparut. Mais, le hasard faisant bien les choses, ils se revirent, parlèrent de ses chansons, dont les titres vous diront quelque chose, j'espère, pour les plus anciens. Un jour tu verras, l'amour, 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 comme un petit coquelicot, complainte des infidèles, et au long des jours qui donnent le titre à cette histoire qui est la leur et qui restait secrète jusqu'à aujourd'hui, même encore aujourd'hui, elle ne donne pas le nom, mais en le voyant, au sourire éblouissant qui est le sien, sur la photo de Bettina et elle, et puis retrouvant ses poèmes, ses chansons. Alors, voici au long des jours cette chanson que je vous livre. Voilà. Au long des jours, je fais l'âme et l'amour, la haine et la tendresse, et je cours les princesses jusqu'à ce que amour cesse. Au long des nuits, j'engrange les souvenirs, les villes, les gares, les femmes, les rues, les ombres et les charmes. Et je cherche à aimer la vie comme un poème, sans souci des soucis, et à dire « je t'aime ». Dans cette chanson, elle y retrouvait nos reflets, l'un à côté de l'autre, même si elle était couleur sépia, photo de Bettina Reims, nous revivons, grâce à ce style merveilleux de Nathalie Reims, toute une époque si belle et si riche, avec Boris Vian, Prévert, Aristide Bruand et bien d'autres noms que vous allez retrouver dans ce merveilleux livre. Au jour, au long des jours, de Nathalie Reims, qui vient de paraître aux éditions Léo Cher. Voilà. Et je vais donc terminer là-dessus, en vous souhaitant encore une fois une très bonne année, avec de très, très bonnes musiques et livres à lire, à méditer. Et puis à bientôt. Au mois prochain. Au revoir. Vous écoutez Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire.